Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Influence et manipulation, l'art de la persuasion » est un essai de psychologie sociale dans lequel Robert Cialdini examine les mécanismes qui conduisent une personne à accepter une demande. Issu de recherches académiques et nourri par des observations de pratiques commerciales, caritatives et relationnelles, le livre vise autant la compréhension que la défense contre des sollicitations abusives. Son idée directrice est que nombre de décisions rapides reposent sur des raccourcis mentaux utiles, mais exploitables par des acteurs intéressés. Cialdini organise son analyse autour de principes récurrents de persuasion, réciprocité, engagement et cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité, rareté, puis unité dans les éditions enrichies. Chaque principe décrit une pression psychologique identifiable, ses usages ordinaires et les conditions qui la rendent plus puissante. Le livre ne réduit pas toute influence à une tromperie. Il distingue une communication fondée sur une valeur réelle et une manipulation qui fabrique obligation, urgence ou confiance. Cette double perspective explique sa place durable parmi les ouvrages de vulgarisation sur la persuasion. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les automatismes décisionnels au centre du modèle de Cialdini. Le cadre général du livre repose sur les réponses automatiques que Cialdini décrit comme des séquences de type clic puis réaction. Face à une information complexe, au manque de temps ou à une situation ambiguë, chacun utilise des indices simples pour décider. Un prix élevé peut suggérer une meilleure qualité, un grand nombre de clients peut signaler un choix sûr, et une occasion limitée peut sembler plus désirable. Ces raccourcis ne sont pas intrinsèquement irrationnels, ils économisent de l'attention et fonctionnent souvent assez bien. Le problème apparaît lorsqu'un professionnel de la vente, un communicant ou un proche active délibérément un indice sans fournir la réalité qui devrait le justifier. Une apparence de compétence peut alors remplacer la compétence, ou une pénurie artificielle remplacer une véritable limite. Cette analyse évite une vision naïve de la liberté de choix, sans affirmer que les individus sont incapables de jugement. Elle montre plutôt que le jugement dépend fortement du contexte de présentation. Pour résister, le lecteur doit déplacer son attention de la forme du signal vers le fond de la proposition. Le besoin est-il réel? La source est-elle fiable? Et la décision resterait-elle valable sans pression temporelle? Cette vigilance constitue la base défensive de tous les chapitres suivants. Deuxièmement, réciprocité et cohérence transforment de petits gestes en obligations. Le principe de réciprocité décrit la tendance à rendre ce qui a été reçu. Un cadeau, un échantillon, une aide ou une concession peut créer un sentiment de dette, même si le premier geste était non demandé et de faible valeur. Cialdini montre pourquoi cette norme facilite la coopération sociale, tout en pouvant servir à obtenir une contrepartie disproportionnée. La réponse utile consiste à différencier un acte généreux d'une manœuvre conçue pour acheter une obligation. Le principe de cohérence agit autrement. Après une prise de position, surtout si elle est visible, active et librement formulée, une personne tend à agir dans un sens compatible avec cette position. Les demandes graduelles exploitent ce mécanisme. Un accord modeste peut préparer un accord plus coûteux. Le livre ne présente pas la cohérence comme un défaut. Elle soutient une identité stable et rend les relations plus prévisibles. Toutefois, elle devient un piège lorsque la première étape est choisie pour enfermer progressivement le décideur. Dans une négociation ou une campagne, une application responsable consiste à demander des engagements clairs, volontaires et proportionnés, puis à respecter le droit de réévaluer la décision. Pour se protéger, il faut examiner séparément chaque demande et refuser de traiter un choix initial comme une dette envers une escalade ultérieure. Troisièmement, preuve sociale. Sympathie et unité définissent la force du lien collectif. La preuve sociale désigne la recherche de repères dans le comportement des autres, particulièrement lorsque la situation est incertaine ou que le choix semble difficile à évaluer. Les avis, les témoignages, les fils, les chiffres de participation et les comportements observables tirent leur efficacité de cette logique. Leur valeur dépend cependant de leur pertinence. Une majorité mal informée ne constitue pas une preuve de qualité. Cialdini invite donc à se demander si les personnes citées connaissent réellement le sujet et si leur situation ressemble à la nôtre. Le principe de sympathie complète cette dynamique. Nous acceptons plus volontiers les demandes de personnes que nous apprécions, notamment en raison de similarités, de compliments, de familiarité ou de coopération. Ces éléments peuvent favoriser une relation sincère, mais ils peuvent aussi détourner l'attention de la qualité de la demande. L'unité, ajoutée dans les éditions plus récentes, approfondit la question du lien. Elle concerne une identité partagée plus forte, telle que la famille, le groupe ou une appartenance commune. Là où la sympathie facilite une préférence interpersonnelle, l'unité mobilise le sentiment de nous. Cette distinction aide à comprendre pourquoi certains messages collectifs sont si puissants. Elle souligne aussi un risque, un appel au groupe peut renforcer la solidarité, mais aussi exclure ou opposer. Une influence éthique doit donc employer ce lien pour soutenir une coopération réelle, non pour attiser une frontière artificielle. Quatrièmement, autorité et rareté fonctionnent par signaux de compétence et de perte. L'autorité influence parce que la compétence constitue un raccourci précieux dans les domaines techniques. Un médecin, un spécialiste ou une institution reconnue peut fournir une orientation que le public ne pourrait pas vérifier seul. Cialdini insiste toutefois sur le fait que les signes d'autorité, tels que titres, vêtements, statuts ou mise en scène, peuvent produire de la conformité avant toute évaluation substantielle. La question défensive est donc de séparer les apparences de la compétence pertinente. Cette personne possède-t-elle une expertise liée au problème précis? Et ses intérêts sont-ils transparents? La rareté repose sur une autre pression. Une ressource qui risque de disparaître semble plus précieuse, notamment parce que la perte de liberté de choisir provoque une réaction de défense. Les offres limitées, les délais courts et les accès exclusifs peuvent ainsi accélérer une décision, mais une contrainte réelle ne justifie pas automatiquement un bon achat ou un bon accord. Le livre conduit à vérifier la nature de la limite stock effectivement restreint, date véritablement fixe ou simple dispositif de vente. Ces deux principes illustrent une leçon importante, les signaux sont utiles lorsqu'ils correspondent à une réalité vérifiable, ils deviennent manipulateurs quand ils imitent cette réalité. Dans la pratique professionnelle, annoncer seulement une expertise démontrable et une rareté factuelle protège la confiance, alors que gonfler ces indices peut procurer un gain immédiat au prix de la crédibilité. En dernier lieu, une lecture simultanément pratique, critique et orientée vers une influence responsable, la particularité de influence et manipulation tient à son ambition double. Le livre explique comment obtenir un accord, mais il fournit aussi des moyens de reconnaître les tentatives qui visent à contourner une réflexion autonome. Cette symétrie le distingue des manuels uniquement centrés sur la vente ou la communication persuasive. Les exemples concrets donnent au principe une portée quotidienne achat, collecte de fonds, relations de travail, négociations ou messages institutionnels. Pourtant, le lecteur ne doit pas considérer les sept principes comme une liste de formules capables de garantir un résultat. Leur effet varie selon le contexte, la crédibilité de la source, la qualité de la proposition et la possibilité réelle de choisir. Cialdini met surtout en évidence des tendances psychologiques, non des boutons mécaniques. Cette réserve est essentielle sur le plan éthique. Employer la réciprocité suppose de donner une valeur authentique. Invoquer la preuve sociale suppose de présenter des comportements réels. Signaler la rareté suppose une limitation vraie. De même, une demande cohérente doit respecter les intérêts de la personne sollicitée. Le livre donne ainsi un critère simple pour évaluer une pratique, survivrait-elle à une présentation transparente de son intention et de ses conditions? Si la réponse est non, le procédé relève probablement davantage de la pression que de la persuasion. Cette orientation rend l'ouvrage pertinent pour des lecteurs qui veulent influencer sans dégrader la qualité de leur relation ni leur réputation. En conclusion, Influence et manipulation convient aux professionnels du marketing, de la vente, de la négociation, de la communication publique et du management. Mais son intérêt dépasse largement ces métiers. Toute personne exposée à des demandes commerciales, numériques, associatives ou relationnelles y trouve un vocabulaire précis pour identifier les pressions qui orientent ses choix. Le bénéfice pratique principal est une meilleure capacité de diagnostic, repérer une dette créée par un cadeau, une escalade fondée sur un premier accord, une majorité peu pertinente, une autorité décorative ou une urgence artificielle. Le bénéfice intellectuel est plus large, le livre replace la décision individuelle dans un environnement de signaux sociaux et montre que la rationalité dépend aussi de la manière dont une situation est cadrée. Par rapport à de nombreux ouvrages de développement personnel consacrés au charisme ou aux techniques de vente, celui de Cialdini se distingue par une structure conceptuelle stable et par son ancrage dans la psychologie sociale. Il ne promet pas une maîtrise absolue des autres, il explique plutôt pourquoi des mécanismes ordinaires de coopération, de confiance et de simplication peuvent être détournés. La présence conjointe de conseils pour persuader et pour résister donne au livre une utilité inhabituelle. Sa lecture est particulièrement féconde si elle mène à des pratiques transparentes, offrir une valeur réelle, documenter son expertise, présenter des preuves honnêtes et laisser un choix effectif. Dans cette perspective, la persuasion devient une coordination éclairée des intérêts plutôt qu'une exploitation des automatismes. Si vous souhaitez soutenir Robert B. Cialdini, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.